Notre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le président du Rassemblement National.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Après la victoire du Maroc sur la Belgique à la Coupe du Monde, des débordements et de violents heurts ont éclaté hier en Belgique et en particulier à Bruxelles. Comment empêcher de telles scènes ?
D'abord en arrêtant l'immigration, moi je suis toujours surpris de voir des populations qui sont nées en France ou en tout cas en Belgique, le contexte est à peu près similaire, qui doivent tout à la France et qui se comportent de manière haineuse à l'égard du pays qui les a accueillis. Il y a, pour paraphraser Max Gallo, des gens qui sont d'ici mais dont l'âme est incontestablement d'ailleurs. Et ces scènes de violence qu'on a vues hier en Belgique à la suite du match rappellent un peu les scènes qu'on avait vécues au Stade de France au mois de mai dernier en France, où on voit à chaque fois des gens qui se lèvent, qui, sous l'impunité généralisée à la fois de la justice et de la politique d'immigration, mais aussi de la politique d'assimilation, s'en prennent à l'État, à la nation, à l'ensemble de ses représentants, et émettent à chaque fois une critique et une haine très vive à l'égard du peuple qui les a accueillis. Moi, c'est pas ma vision de l'immigration. Moi, j'appartiens à une génération qui est issue de l'immigration, mais qui a tout fait pour s'assimiler, pour aimer la France et pour participer de cette même communauté de
justement,
destin que sont nos nations européennes.
Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une minorité de voyous qui a cassé, qui a caillassé, ou est-ce que vous généralisez comme vous le faites en parlant d'immigration ?
Je parle d'immigration parce que l'immigration est le moteur aujourd'hui du communautarisme et de l'insécurité. Mais ces personnes-là font beaucoup de mal à des gens qui sont arrivés dans nos nations, dont je fais partie il y a plusieurs décennies, qui se sont assimilés, qui ont appris nos langues, qui respectent nos us et coutumes. Moi, je demande juste une chose aux gens qui viennent en France, c'est de nous ressembler, c'est de vivre comme nous, c'est de vivre à la française, c'est de respecter nos lois, c'est de respecter la police, c'est de respecter notre drapeau. Or aujourd'hui, cette politique d'assimilation, elle n'est plus possible parce qu'on accueille des centaines de milliers de personnes chaque année et la Belgique, c'est un peu comme la France. Il y a beaucoup de territoires qui ne ressemblent plus à la Belgique ou qui ne ressemblent plus à la France. Et il y a en France d'innombrables quartiers, je vous le rappelle, où eh bien, les Français ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et ont parfois la douloureuse sensation de devenir des étrangers dans leur propre pays.
Vous avez parlé de la police, Jordan Bardella, elle est très sollicitée, notamment dans les Yvelines, où une rixe mortelle entre bandes rivales a provoqué la mort d'un adolescent de 14 ans. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a un jeune homme de 16 ans qui est en garde à vue. Des renforts de CRS ont été envoyés. Le phénomène des bandes rival n'est pas nouveau. Là encore, qu'est-ce qu'on peut faire à part de nouveaux renforts à chaque fois ?
Eh bien, il faut faire un tour de vis en matière pénale. Parce que bien souvent, les policiers nous le disent d'ailleurs, quand ils démantèlent des bandes, quand ils démantèlent des trafics, ils interpellent des individus et ces individus sont remis en liberté un jour, deux jours, peut-être parfois deux heures après. Donc il faut faire un tour de vis en matière pénale, il faut rétablir des peines planchers, il faut abaisser la majorité pénale bien en dessous évidemment de ce qu'elle est aujourd'hui, il faut mettre fin aux remises automatiques de peine et puis il faut construire des places de prison. Et pouvoir faire des places dans ces prisons, vous avez vu ce rapport qui est sorti ce week-end qui nous dit qu'on n'a jamais eu autant de prisonniers en France. Il faut arrêter l'immigration. Je rappelle que 25% des détenus dans nos prisons sont des détenus étrangers. Et donc, il faut rétablir ce qu'a supprimé la droite, c'est-à-dire la double peine. Quand on vient en France, si vous venez en France pour violer nos lois, eh bien, vous devez être reconduit chez vous. Donc, il faut expulser tous les délinquants et criminels étrangers.
Arrêter l'immigration ou plutôt faciliter l'intégration ou l'assimilation ?
De facto, elle n'est plus possible quand vous accueillez chaque année l'équivalent de deux fois la ville de Bordeaux de manière légale, sans compter les mineurs étrangers non accompagnés, sans compter les 600 000 clandestins qui, d'après M. Darmanin, sont présents sur le territoire. Mais on a un peu le sentiment aujourd'hui que la sécurité et l'immigration sont hors de contrôle aujourd'hui dans notre pays. Regardez le bilan de Gérald Darmanin ces six derniers mois. Le chaos du Stade de France. Les criminels qui, sous OQTF, commettent des crimes et des méfaits tous les jours dans notre pays et qui ne sont pas expulsés. La situation absolument chaotique à Mayotte. L'imam Iquissen, dont on a fait
un bilan plus noir que noir.
L'ennemi public numéro un et qu'on a laissé filer parce que nos services de surveillance n'ont pas
et
été capables de
le surveiller. Et qui n'est plus sur le territoire français, surveiller. Dit le ministre de l'Intérieur qui s'en réjouit.
Mais c'est dramatique qu'il nous ait filé entre les doigts. Regardez la situation de l'Ocean Viking, où on accueille 44 mineurs. Sur ces 44 mineurs, 26 ont pris la fuite et sont éparpillés dans la nature.
Gérald
Donc moi,
Darmanin,
la question que je pose ce matin, c'est qui protège les Français aujourd'hui ?
Sur ce sujet, puisque vous en parlez, l'Ocean Viking, il y a eu une réunion des ministres européens de l'Intérieur qui a permis d'aboutir, semble-t-il, à un accord après cet épisode. Ce plan repose sur 20 mesures pour renforcer notamment la coopération avec la Tunisie et la Libye. Vous applaudissez un début d'accord ?
Non, écoutez, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, indiquer que la France reprendrait les relocalisations de migrants dès que cela serait possible. Donc les Français qui nous écoutent ce matin doivent savoir qu'ils ont à la tête du pays un ministre de l'Intérieur qui va accélérer la répartition des migrants dans les villages et dans les campagnes françaises. Le problème aujourd'hui, c'est que la politique d'immigration en France et en Europe ne se décide plus à Paris, au ministère de l'Intérieur, mais depuis la mer, par des ONG qui sont des trafiquants d'êtres humains, qui sont les complices des mafias de passeurs et qui font pression pour que nos nations accueillent une immigration supplémentaire dont les peuples ne veulent plus. Parce que je rappelle que cette relocalisation de migrants, elle s'effectue contre l'avis des populations qui ne sont jamais consultées. Moi, je pense que pas un euro ne doit aller à l'immigration aujourd'hui. Si vous venez en France de manière légale, il faut pouvoir subvenir à vos besoins. Et si vous venez en France de manière clandestine, comme c'est le cas pour beaucoup de gens qui viennent dans notre pays et qui bénéficient d'un certain nombre de prestations sociales comme les soins gratuits, eh bien, il faut que vous soyez raccompagnés chez vous. Encore une fois, c'est l'application de la loi, mais on a le sentiment que notre pays est complètement submergé, que le ministre de l'Intérieur est incapable de tenir quoi que ce soit.
Ça ne se décide pas au niveau national, mais au niveau européen. Quand vous voyez que 11 pays européens se seraient engagés à reprendre les migrants sur, de notre sol, selon là encore le ministre de l'Intérieur, est-ce que ce n'est pas un exemple, malgré tout, d'une forme de solidarité européenne ?
Mais que veulent les peuples ? Est-ce que les Français, moi je pose une question très simple, est-ce que les Français sont d'accord, oui ou non, pour accueillir une immigration supplémentaire ? Il faudrait peut-être les consulter par référendum. Moi, je pense par principe que la France n'a pas vocation à être le pays de tout le monde. Voilà, au risque peut-être demain et après-demain de n'être le pays de plus personne. Donc il faut un tour de vis aujourd'hui en matière d'immigration. Nous proposons, comme l'a fait le Danemark par exemple, que les demandes d'asile soient traitées depuis les ambassades et les consulats des pays de départ. Pas une seule demande d'asile traitée sur le territoire national. En matière d'aide sociale, il faut réserver les prestations sociales aux familles françaises, aux travailleurs français. C'est ce qu'on appelle la priorité nationale. Parce que sinon, on crée un appel d'air à l'égard de gens qui risque leur vie
Jordan
en traversant
Bardella.
La mer.
Est-ce que la question, c'est
que
encore,
continent est encore en Eldorado.
Est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration ou est-ce qu'on peut encore y faire quelque chose ? Dans les prochaines années, certains disent qu'avec l'immigration climatique, économique et les réfugiés politiques, la question n'est plus tant de savoir pour ou contre, mais comment faire pour tarir un peu ce flux ?
Mais il faut d'ores et déjà tarir le flux. Mais le flux est d'ores et déjà considérable. Mais il y a un certain nombre de pays en Europe qui montrent l'exemple. Le Danemark l'a fait. Le Danemark est un pays même pas orienté à droite. C'est un gouvernement social-démocrate qui organise le traitement de l'asile dans les pays de départ. La Hongrie, elle maîtrise ses frontières et pourtant elle participe notamment de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'Union européenne. Donc il y a des pays qui réussissent à maîtriser l'immigration. Madame Meloni, la première ministre italienne qui a été portée démocratiquement au pouvoir par les Italiens.
Qui a accepté, on oublie de le rappeler, beaucoup de bateaux, quelques bateaux.
Mais elle a réduit la voilure, elle a refusé de prendre l'Ocean Viking.
Qu'elle a reçu quelques bateaux de migrants, on oublie souvent de le dire.
Je pense qu'il faut couper les subventions publiques à toutes ces ONG qui sont les faunés du trafic d'êtres humains et qui vont chercher les bateaux non pas
le gouvernement
à
ne
proximité
le fait pas.
De nos côtes, parce que le projet du. Parce que pour Emmanuel Macron, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. Et le projet d'Emmanuel Macron, ça consiste à accueillir et à répartir. Le projet du Rassemblement National, ça consiste à secourir et à reconduire. Or, aujourd'hui, les ONG vont chercher les bateaux en violation totale du droit de la mer, parfois à 20 ou 30 km des côtes libyennes ou des côtes tunisiennes. Le droit maritime voudrait que des bateaux à la dérive soient accompagnés dans les ports tunisiens, dans les ports libyens, à qui, je rappelle, parce qu'on parlait de l'Union européenne donne beaucoup d'argent pour la sécurité de nos frontières. Je dis juste que l'immigration est probablement l'un des plus grands défis qu'attend notre continent dans les prochaines années. Je vous rappelle que la démographie africaine va doubler d'ici à 2050 et que l'un de vos confrères qui a travaillé au Monde, Monsieur Stephen Smith, a écrit un bouquin qui s'appelle « La ruée vers l'Europe ». C'est probablement ce qui nous attend si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle de notre destin. Parce que
Stephen Smith, je me rappelle, dont il y a une pleine page aujourd'hui dans Le Figaro à lire.
Alors, je ne l'ai même pas vu.
Une partie de cette immigration fait partie, Jordan Bardella, de la France qui se lève tôt aussi, ceux qui sont intégrés ou assimilés. Ce sont les Français qui bossent dur en ayant le sentiment de travailler pour d'autres. C'est ainsi que le ministre Gabriel Attal a qualifié dans le journal Le Parisien hier les classes populaires, de manière générale, auxquelles, selon lui, les aides du gouvernement vont en priorité. C'est le cas ? C'est une bonne chose ?
Non, je ne crois pas du tout. Il y a un Français sur deux aujourd'hui qui est à 10 euros près quand il fait ses courses. Cette inflation à deux chiffres qui atteint le pays, elle a des conséquences aussi sur la qualité de vie des Français. Quand on voit que l'achat de produits frais a baissé de 17% en un an, cette inflation, elle a des conséquences.
Ça, malheureusement, c'est
aujourd'hui
le lot de tous les peuples
sur
face
tous
à
les Français. Il y a deux urgences aujourd'hui, c'est l'alimentation et l'énergie. Sur l'alimentation, nous proposons un panier de 100 produits de première nécessité disponibles dans toutes les grandes surfaces, tous les commerces, à TVA. 0% de TVA sur ces produits d'urgence, les pâtes, le riz,
Bardella,
les
couches, contestez toutes les aides
génie.
Qu'il y a de la
non,
part
je
du
dis
gouvernement,
juste que c'est une logique,
parce qu'elles sont nombreuses.
Oui, mais c'est une logique de ciblage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on distribue des chèques. C'est une mesure d'abord qui ne concerne pas l'ensemble des classes moyennes, qui sont de moins en moins moyennes et qui doivent payer pour tout le monde, et qui n'est pas une logique pérenne. On le voit avec la ristourne, si vous voulez. La seule mesure pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est la paix fiscale, c'est de baisser la TVA, c'est de baisser les taxes, notamment sur l'essence. Vous me dites, on connaît nos propositions. Je rappelle juste qu'on propose notamment de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une angoisse pour des millions de Français. Et puis, il faut retrouver la maîtrise des prix de l'énergie. Quand je vois aujourd'hui que dans l'Essonne, il y a une école qui ferme parce que la facture d'électricité de la mairie a été multipliée par 5. Quand on voit qu'il y a des entreprises qui sont obligées, comme Duralex, de mettre leur production à l'arrêt, on ne paye pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On paye les choix économiques et énergétiques cataclysmiques du gouvernement,
question,
notamment
Jordan
sur le nucléaire.
Donc, quand on se compare,
juste,
est-ce
si
qu'on
me permettez,
se console,
il faut retrouver la maîtrise des prix
en Europe,
en sortant du marché européen de l'électricité.
Quand on regarde les chiffres en Europe, ils sont têtus. Ça peut ne pas nous consoler, mais malgré tout, il est vrai que la France, très concrètement, s'en sort mieux que les pays européens. C'est un argument qui n'est pas valable pour vous.
Mais ça n'est pas vrai. L'Espagne, regardez sur l'énergie. Je vous parlais de la sortie du marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, les prix de l'électricité sont adossés au prix du gaz. C'est une aberration compte tenu du modèle français. Regardez l'Espagne ou le Portugal. Ils ont négocié avec la Commission européenne une clause dérogatoire de ce marché européen de l'énergie. Ils ont aujourd'hui une énergie qui est trois fois moins chère que la France. Regardez la Pologne ou l'Allemagne qui ont baissé la TVA de 20%
à 5,5%. Mais l'inflation dans ces pays, quand vous comparez à la France ?
Non mais je me compare pas par rapport aux autres pays.
Bon, attends,
je
dis qu'il y a des... C'est quand même compliqué, c'est quand même un élément de comparaison quand l'inflation est un peu moins forte.
Non mais d'accord, on pourrait aussi rappeler les 600 milliards d'euros de dettes qui sont imputables directement au mauvais choix du gouvernement. Il y a un rapport de l'INSEE qui est sorti, je crois que c'est vous qui l'avez rappelé d'ailleurs au grand rendez-vous hier, qui est sorti la semaine dernière et qui pointe que la moitié des mesures redistributives du gouvernement sont allées directement aux Français les plus aisés. Donc la vérité c'est qu'Emmanuel Macron n'a avantagé qu'une petite élite dans notre pays, et que le seul moyen aujourd'hui de rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est d'abord la paix fiscale, et puis il faut augmenter les salaires. Vous savez que nous proposons notamment de permettre à tous les chefs d'entreprise qui le souhaitent d'augmenter de 10% leur salaire avec une contrepartie que ces 10% soient exonérés de cotisations patronales. Donc vous voyez, on a vraiment un bouclier, nous, en faveur du pouvoir d'achat, pour protéger les Français qui s'inquiètent de l'hiver qui vient.
Alors, un exemple précis, Jordan Bardella, qui concerne cette France qui se lève tôt, particulièrement dans la région Île-de-France, que vous connaissez bien, où le pass Navigo pourrait passer dans les prochains jours, jusqu'à 90-100 euros même, ce qui est quand même une aberration. Invité hier du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, le ministre des Transports Clément Beaune, lui, a affirmé que c'était la faute à la région et non à l'État qui refuse, je le précise, d'augmenter la contribution des entreprises. Pour vous, à qui la faute? Et vous, au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez augmenté la contribution
des
entreprises?
Écoutez, moi, je suis conseiller régional d'Île-de-France. Je ne suis pas l'avocat de Valérie Pécresse, mais les collectivités sont de plus en plus prises à la gorge. Voilà. On est là dans un imbroglio qui réunit en réalité le ministre des Transports et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on voit sur l'augmentation du Navigo, on est en train de le voir aujourd'hui dans tous les domaines. Nous payons les choix cataclysmiques du gouvernement en matière énergétique. Toutes ces personnes aujourd'hui qui viennent déplorer l'inflation, qui viennent déplorer la hausse des prix, et je pense aux membres de l'exécutif, sont ceux qui ont fermé nos centrales nucléaires, sont ceux qui ont abandonné le projet Astrid.
Sur le nucléaire, vous n'étiez pas toujours très clair.
Hein. Si, on a toujours été extrêmement clair. On a toujours dit que à terme, on ne devait pas s'interdire d'autres investissements, notamment dans l'hydrogène. Marine Le Pen a fait partie des premières dirigeantes politiques à soutenir l'hydrogène. Mais quand on voit aujourd'hui l'état de tiers-mondisation de l'ensemble de notre filière nucléaire, alors même que on est contraint aujourd'hui de rouvrir nos centrales à charbon, et que Madame Borne, qui était ministre des Transports et de l'Écologie à l'époque, qui s'était félicitée de la fermeture de la centrale de Fessenheim et qui vient aujourd'hui déplorer la sobriété et la fragilité énergétique de la France, c'est une hypocrisie totale. Donc je veux juste que les Français qui nous écoutent ce matin retiennent bien cela. La situation qu'on vit cet hiver, les pénuries dans les entreprises, les pénuries énergétiques et la hausse des coupures et des factures, ça n'est pas de la responsabilité de l'Ukraine ou du conflit à l'extérieur, mais bien des choix politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron et qui viennent aujourd'hui contredire tout ce qu'ils ont fait hier et avant-hier.
Nous parlons de ce qui se passe en France, parlons de tout ce qui se passe, y compris dans ce département français dont on parle peu, Mayotte, avec des bandes qui caillassent et pillent tout ce qu'il y a à voler. Ce sont des scènes d'une violence incroyable. Que se passe-t-il précisément de votre point de vue? C'est malheureusement une situation qui date depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyer des renforts, toujours, encore plus?
Écoutez, Mayotte sera probablement notre futur.
en métropole. Que les Français regardent bien ce qui est en train de se passer à Mayotte, parce que cela pourrait être notre futur si on ne reprend pas dès maintenant le contrôle. À Mayotte, 50% de la population est étrangère. On dit souvent qu'elle est la première maternité de France. Il y a là-bas des barrages dans les rues. Tous les jours, des Français qui sont agressés. J'entendais un bus scolaire qui a été agressé par des clandestins à la machette. Je rappelle que Mayotte, c'est la France. Que Mayotte a, par 4 reprises, fait le choix d'appartenir à la République française. Et la France n'a pas le droit d'abandonner
Mais
Mayotte.
Qui est responsable
Donc,
de cette anarchie, alors
D'abord, le ministre de l'Intérieur qui est, qui est incapable de rétablir la sécurité là-bas. Et deuxièmement, des Comores qui revendiquent, évidemment, Mayotte. Vous le savez, il faut d'abord supprimer le droit du sol, parce que le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique de la nationalité qui fait que de l'île voisine des Comores, vous allez à Mayotte, vous obtenez quasi automatiquement le droit du sol, fait que c'est un appel d'air absolument considérable et c'est que c'est probablement l'un des principaux facteurs de la crise. Deuxièmement, il faut instaurer la priorité nationale sur l'ensemble des aides sociales et puis il faut envoyer la marine et notamment des patrouilleurs pour protéger Mayotte d'un influx toujours considérable des Comores. Et je tiens à préciser et à annoncer que je me rendrai à Mayotte dans les prochains jours.
Pour constater la situation sur place.
Oui, et pour alerter l'opinion et l'opinion de l'ensemble de nos concitoyens sur ce qui est en train de se passer là-bas. Je voudrais juste dire que depuis Jacques Chirac, l'outre-mer a été totalement abandonné par les gens qui sont succédés au pouvoir. L'outre-mer, c'est la France. Et nous avons pardonnez-moi, dans le cadre de ce grand ministère pour l'outre-mer que souhaitait Marine Le Pen, de grandes ambitions pour ces territoires. Et je vous rappelle qu'ils nous ont mis en tête à plusieurs reprises et notamment lors de la dernière élection présidentielle.
Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.